Alors, comme tous les lundis, Lionel vient de nous rejoindre. Bonjour Lionel.
Bonjour à toutes et à tous.
C'est l'heure de la chronique L'Onde du Bois.
L'Onde du Bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Alors Lionel, de quoi on parle aujourd'hui ?
Eh bien, après notre voyage dans le temps des forêts du plateau, rien ne vaut une petite pause au pied d'un arbre et d'arrêter notre regard sur ses racines, son fût, l'ensemble de ses branches qui forment son houppier. Je vous propose donc aujourd'hui un regard sur l'arbre, de sa description à ses principes de croissance.
Alors toi, tu es forestier, tu t'occupes donc surtout des peuplements d'arbres, n'est-ce pas ? Un forestier doit aussi savoir comment un arbre fonctionne.
Eh bien oui, tout à fait. S'occuper de la forêt, c'est s'occuper aussi des arbres. Et ce n'est certainement pas l'arbre qui cache la forêt. J'ai appris cela quand je travaillais chez un expert forestier. Il est primordial que le forestier ait un regard sur l'arbre, en fait. Car grâce à la sylviculture et à ses choix d'itinéraire sylvicole, il va former les fûts qui seront un jour récoltés en bois d'œuvre. Il nous faut de solides connaissances en dendrologie, la science de l'arbre, dendron en grec, et qui aborde la classification des êtres vivants, donc par la botanique, notamment ici celle du règne végétal ligneux. On parle de végétal ligneux, végétal qui est fait de bois. La reconnaissance également est abordée en dendrologie, la botanique, et la physiologie végétale qui étudie le fonctionnement des organes et des tissus végétaux.
Super, bon ben allez, on va se poser au pied de cet arbre alors. Il est vraiment imposant, idéal pour une petite description. Est-ce que c'est un feuillu ?
Alors voilà, on est en train de marcher en forêt là, et oui, on va s'arrêter au pied de cet arbre. Tout à fait, Maëline, c'est un feuillu. Il s'agit d'un très beau frêne commun, ou aussi appelé en latin, la langue internationale des botanistes, Fraxinus excelsior, de la famille des oléacées. Il fait partie du groupe des angiospermes, c'est-à-dire que ses graines sont cachées dans une sorte de récipient, protégées par ses fruits, comme pour tous les arbres feuillus, contrairement aux résineux qui sont des gymnospermes, c'est-à-dire que les fruits s'ouvrent sur des graines nues. Alors notre frêne là, on peut voir qu'il n'a pas de signe de dépérissement causé soit par des stress, soit par des attaques de ravageurs, qu'il a un fût plutôt bien élancé, avec une hauteur jusqu'à la première branche d'environ 15 mètres. Un empattement intact, on peut voir qu'il n'a pas de blessure au pied, et puis on peut, après avoir pris sa mesure, estimer son diamètre, qu'on va prendre à 1m30 du sol, et bien de 90 cm, c'est vraiment un bel arbre. Il a un beau houppier, dont d'ailleurs on pourrait estimer l'envergure à 8 mètres de diamètre.
Et quand tu dis élancé, ça veut dire qu'on a l'impression qu'il est monté à toute vitesse vers le ciel, c'est ça ?
Eh bien, en fait, là, tel qu'on le voit, il y a des arbres qui l'entourent, et donc il ne pousse pas seul. Du fait qu'il ait besoin de lumière pour créer sa propre matière grâce à la photosynthèse, on peut presque dire qu'ils sont tous en train de faire une course vers le ciel, vers la lumière. Cette course est bien sûr très lente, invisible à l'œil nu, et celui qui la gagnera sera celui qui sera le plus dynamique, celui qui aura les meilleures conditions pour vivre et se développer, comme la profondeur du sol par exemple, ou la lumière. Un arbre qui pousse de manière isolée, comme ces gros chênes, châtaigniers ou tilleuls que l'on voit souvent quand on se promène au milieu des champs, eux, eh bien, ils poussent en pleine lumière. On pourrait dire qu'ils se gavent presque de lumière, et c'est ce qui leur donne cet aspect plus massif, avec un port plus rond, souvent un houppier plus bas.
Alors quand tu parles des meilleures conditions pour se développer, c'est que l'arbre se trouve au niveau aérien, donc il a l'eau sous forme de vapeur, il a la lumière, etc. Mais aussi au niveau du sol, il y a quelque chose qui se passe.
Eh bien exactement, en fait, ce qu'il trouve dans le sol, en termes techniques, on appelle cela les conditions édaphiques. En plus de dire qu'il s'agit d'une course très lente, il faut aussi remarquer que cet arbre va effectuer toute sa vie au même endroit. C'est un voyage immobile. Il va donc, comme tout organisme autotrophe, capter ce qu'il peut à proximité et en même temps se développer pour accroître ses surfaces d'absorption aussi grâce aux relations symbiotiques avec les champignons. Dans le sol, il ira chercher l'eau, utile à sa croissance, et des sels minéraux, azote, phosphate, potasse, pour les acheminer doucement ensuite jusqu'aux feuilles sous forme de sève brute à travers les vaisseaux du bois appelés xylèmes. Puis, en passant dans les feuilles, cette sève brute va subir une transformation que tout le monde connaît ici.
Oui, la fameuse photosynthèse. Alors comment ça marche ?
Alors je vais essayer d'être bref, mais en fait la sève brute qui contient de l'eau et des sels minéraux va circuler dans la feuille qui, grâce à la lumière du soleil, va agiter l'organite nommé chloroplaste. Hein, c'est des petites cellules qui sont contenues dans, enfin des petites organites contenues dans la cellule végétale. Donc ces chloroplastes, ils vont bouger très très vite, provoquer un réchauffement, une réaction chimique qui redistribue ensuite les atomes et modifie donc les molécules. Ainsi, l'eau et le CO2 absorbés par les stomates, hein, sorte de pores permettant les échanges gazeux, vont être synthétisés en glucides, amidons, qui permettent à l'arbre de fabriquer sa propre matière et ses réserves. De cette réaction se dégagera l'oxygène également par les stomates ou les lenticelles. Donc la sève qui ressort en fait des feuilles et qui redescend par le phloème est dite élaborée et redistribue à tout l'arbre les glucides nécessaires à la production de lignine et de cellulose.
Ça nous paraît magique. Alors c'est pour cela qu'il est primordial de valoriser tout le patrimoine arboré. C'est une vraie pompe à dioxyde de carbone en plus.
Ouais, en effet. N'oublions pas en plus que de ce phénomène d'absorption lié à la photosynthèse qui se produit le jour, eh bien la nuit, c'est le total inverse. Effectivement, c'est une pompe à dioxyde de carbone, mais la nuit, on va parler de la respiration des plantes. Et oui, les végétaux relâchent également du dioxyde de carbone, mais la nuit. Hein, à moindre mesure, par rapport à la photosynthèse, les arbres vont faire comme nous, absorber de l'oxygène et relâcher du dioxyde de carbone. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'il faut bien ouvrir une fenêtre chez soi lorsqu'on a beaucoup de plantes d'intérieur. Également, l'importance de bien ventiler une serre.
D'accord, alors ça je ne le savais pas du tout, puisque c'est vrai qu'on dit que les plantes piègent le carbone, mais donc elles en relâchent. Qu'est-ce qu'elles en font? Comment elles le stockent après ce carbone?
Bon, alors le stock sous forme de bois, en fait pour les espèces ligneuses, regarde par exemple ce frêne là, il a grandi en hauteur mais également en diamètre. Et tiens, allons voir juste là cette souche fraîchement réalisée par le maître bûcheron qui a travaillé là. On voit ici que chaque année, il gagne une cerne, ou un cerne, on dit plutôt, c'est un cerne, d'une épaisseur plus ou moins importante selon qu'il soit sur une station adaptée ou moins adaptée, seul ou à plusieurs, comme on l'a dit il y a une minute. Et on peut aussi lire l'historique des mises en lumière voulues ou accidentelles, comme les tempêtes par exemple ou les mises en lumière, par rapport au changement d'épaisseur d'un cerne à l'autre. Si on regarde bien, on remarque une succession de cercles concentriques qui partent du cœur de l'arbre et qu'on peut appeler le duramen ou bois parfait. Donc ça, c'est quand on est vraiment au centre. Et puis plus on va aller vers l'extérieur de la souche, et bien plus on arrive dans l'aubier situé à l'extérieur et qui est bien plus tendre que le duramen.
Ah oui, donc c'est ces petites traces, là, ces petites cernes qu'on peut s'amuser à compter pour déterminer l'âge d'un arbre.
Ouais, exactement. Alors là, on pourrait s'amuser à compter. Donc qu'est-ce qu'on va en fait compter? Il faut forcément... Alors c'est vrai que pour compter l'âge d'un arbre, il faut forcément l'abattre si on veut voir toute la souche. Mais il est également possible de compter l'âge de l'arbre sur pied en réalisant un prélèvement dans l'arbre sur pied grâce à une tarière. C'est la tarière de Pressler. Alors pour l'âge, si on regarde la couleur de ces cernes, on peut remarquer une succession de cernes claires et juste après de cernes foncées. Puis à nouveau de cernes claires, foncées, claires, foncées, etc. En fait, on ne comptera que le nombre de cernes dans la catégorie claire ou foncée. Ça dépend des personnes.
D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces cernes claires et ces cernes foncées?
Alors là, on va dans le détail. Donc concrètement, l'arbre est un végétal polycyclique qui pousse pendant deux périodes dans l'année. Une première fois au printemps, à la reprise de végétation, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment créé des vaisseaux de circulation. Il donne la priorité à la circulation de la sève pour bien irriguer tous ses organes. Et puis, cette période du printemps, c'est la période où l'arbre a le plus d'eau à disposition. Donc c'est ce qui donne cette cerne plus claire que l'autre. Et si on regarde bien, elle paraît plus poreuse, cette cerne de printemps. Elle paraît plus poreuse que la suivante. Puis après, il y a un petit repos qui dépend d'ailleurs des sécheresses vers le mois d'août. C'est l'aoûtement. Il reprend une deuxième période de croissance où sa stratégie va cette fois-ci s'orienter sur la fabrication de bois de soutien. D'ailleurs, on la voit ici, le cerne est beaucoup plus dense, ce qui en plus correspond à une rareté plus importante en eau à ce moment de l'année.
Eh ben, impressionnant. Ils sont vraiment incroyables, ces arbres. J'ai encore pas mal de questions. C'est pour ça que vous allez revenir encore lundi prochain.
Ah ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est toujours plus sympa de mieux savoir, de s'arrêter sur vraiment le regard sur un arbre, d'être face aux arbres, et plus sympa de mieux savoir comment fonctionne un arbre et de s'intéresser à ses besoins. Non seulement le forestier qui travaille avec eux en peuplement, le paysagiste, l'agriculteur, et puis les arboristes, donc mes amis arboristes d'ailleurs que je salue ici, tous ici, les propriétaires ou non des arbres doivent tous savoir comment naît, vit et meurt un arbre, et de l'importance de les traiter d'égal à égal, tout être vivant que nous sommes, avec respect. Je peux citer l'association d'ailleurs Arbre, qui travaille à une meilleure prise en compte des arbres dans les différents codes, et avec autant de dignité et parfois de partialité ou d'impartialité que ce qu'on a l'habitude de s'infliger à nous-mêmes. Cette seule chronique ne suffira pas ici à exposer toutes les découvertes et tous les secrets de nos chers arbres. Nous continuerons à en parler dans de prochaines chroniques.
Et ce sera avec plaisir. En attendant, voilà. Lionel, on vous dit au revoir. On vous dit à la semaine prochaine. Vous partez, comme d'habitude, en musique sur un morceau de...
Voilà, Maxime Le Forestier, comme un arbre dans la ville.
C'est parti.
Un arbre dans la ville. Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, pour pousser je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. J'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville. Entre béton, où j'ai vécu, des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps, du feu de mes